Quartier La Chapelle, Paris. On pouvait lire sur les murs une affiche en français et en anglais le soir qui a suivi l'expulsion. L'épidémie, c'est le capitalisme, ses flics, ses guerres, ses frontières. Ce matin, mardi 2 juin, 400 migrants et migrantes qui vivaient depuis plusieurs mois sous le métro aérien entre La Chapelle et Barbès ont été expulsés, sous prétexte d'une menace d'épidémie. Préfecture et mairie espèrent ainsi nettoyer le quartier en pleine rénovation urbaine et disperser les migrants. Et cela avec la collaboration des associations Emmaüs et France Terre d'Asile, caution humanitaire à la répression des migrants et migrantes qui participent à trier, contrôler des individus selon une origine qu'ils n'ont pas choisie. Associatifs et flics travaillent côte à côte pour déloger les migrants en échange de quelques nuits d'hébergement pour les mieux lotis, la rue pour les autres. De l'autre côté des barrières, des manifestants et manifestantes se sont regroupés avec banderoles, tracts et guirlandes d'affiches pour exprimer leur solidarité aux expulsés, mais ne parviennent pas à bloquer les cars de la compagnie Savac qui les emmène. À peine l'opération terminée, sans laisser à certains la possibilité de récupérer leurs affaires, le ménage est fait pour offrir à Vinci l'usage du terrain. Quelques heures plus tard, une centaine de migrants manifestent vers la mairie du 18e pour exiger une solution de logement. L'expulsion de ce campement participe à la volonté de l'État d'isoler, d'humilier, d'empêcher toute organisation des migrants pour survivre ici ou tenter d'aller vers d'autres pays. Nombre d'entre elles et eux souhaitent en effet rejoindre l'Angleterre en passant par Calais, où deux squats de migrants ont été expulsés aujourd'hui même. Là-bas comme ici, l'État et ses larbins détruisent les espaces que s'approprient les migrants, parlant d'évacuation sanitaire alors même qu'ils sont responsables de leurs conditions de vie précaires par le harcèlement qu'ils leur font subir. Laissons parler notre rage contre ces flics qui aujourd'hui expulsent et qui tous les jours font leur sale boulot de contrôle, d'arrestation, d'emprisonnement en centre de rétention de celles et ceux qui n'ont pas les bons papiers. Solidarité avec les migrants, abat toutes les frontières, liberté pour tous et toutes. Une personne nous raconte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu lors de ses campements, de ses mouvements et expulsions. Une personne en soutien aux migrants.
Je peux dire que je suis, oui, on va dire que je suis militante dans les collectifs de sans-papiers depuis un certain temps. Et du coup, je me suis retrouvée sur cette lutte un peu sur le tard parce que ça a été au moment de, enfin, juste avant l'expulsion du premier camp qui était situé sous les rails du métro La Chapelle. Donc c'est un endroit où il y avait un campement de fortune, comme on dit. Sous le métro, où il y avait une centaine de personnes depuis environ le mois d'août 2014. Et depuis le mois d'avril 2015, il y a eu beaucoup d'arrivées et on était début juin au moment de l'évacuation de cet endroit. Il y avait à peu près 480 personnes. Donc le 2 juin, ce camp a été démantelé, évacué par... les pouvoirs publics, la mairie, la préfecture, et tout ça avait été comme toute expulsion de squat, expulsion locative, il y avait eu au préalable un diagnostic social. Et en fait, préalablement à cette expulsion, il y avait l'OFPRA avait réquisitionné un gymnase à la Goutte d'Or, donc le quartier qui est adjacent à cet endroit-là, pour faire des pré-enregistrements des personnes qui seraient susceptibles de vouloir demander l'asile. Du coup, il y avait une espèce de liste qui a été établie à ce moment-là. Et donc, le jour où il y avait un papier qui était affiché sur le campement, qui précisait que les gens devaient évacuer la zone sous 48 heures, avis la population. Et donc, 48 heures plus tard, effectivement, ils sont arrivés très tôt le matin, ils ont fait une nasse en 30 secondes, ils ont complètement bouclé... autour du camp, et ils ont fait monter les gens dans des bus dont tous les sièges étaient recouverts de plastique, et donc la presse ne pouvait pas être présente. Il y a quelques élus qui ont réussi à se faufiler sur place, mais voilà, donc c'était vraiment une opération policière qui a été présentée comme une opération sanitaire, parce qu'effectivement, c'était les conditions d'hygiène, etc., étaient assez catastrophiques. Mais bon, c'est assez logique quand t'as 480 personnes qui dorment dans des tentes avec deux chiottes sous le métro, sans eau, sans rien. Et donc là, ça a été la première évacuation. Très gros dispositif policier, le quartier bouclé, des dizaines de cars. Et du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une partie des personnes qui étaient présentes qui ont été évacuées vers des centres d'hébergement d'urgence. Donc notamment les personnes vulnérables. Il y avait pas mal de femmes, pas mal d'enfants. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par personnes vulnérables, mais je pense que c'est des gens qui avaient des états de santé un peu dégradés à ce moment-là. Et tous les gens qui étaient sur la liste, et tous les gens qui étaient présents en fait sur le terrain. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas à cet instant T. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la nasse autour du camp, elle s'est mise en place très 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 rapidement, vers 6h du matin, entre 6h et 7h du matin. Et donc tous les gens qui n'étaient pas présents à l'instant T parce qu'ils étaient allés pisser, allés boire un café, allés à la mosquée, allés je sais pas où, ou qui avaient dormi ailleurs ce jour-là, ou qu'on eu peur de voir arriver toute cette police et tout ça, n'ont pas pu être pris en charge ce jour-là. Donc il y a plein de gens qui avaient des convocations pour aller déposer leur demande d'asile, qui n'ont pas pu être pris en charge. Donc à ça, donc juste pour préciser que pour introduire une demande d'asile en France, il faut d'abord avoir une domiciliation administrative qui peut être délivrée par, en tout cas à Paris, par deux associations agréées qui sont Domasile, France Terre d'Asile, ou des particuliers. Avec les particuliers, ça peut accélérer les choses, mais ça a aussi des inconvénients. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, là, cette liste qui avait été établie par l'OFPRA préalablement à cette évacuation, ça permettait à tous les gens qui étaient sur la liste de sauter l'étape de domiciliation, du coup, de raccourcir considérablement les délais pour pouvoir introduire la demande d'asile. Parce que pour avoir une domiciliation, on va à France Terre d'Asile, ils nous donnent rendez-vous en général au minimum un mois plus tard. Et après ça, on a encore quelques semaines d'attente avant de pouvoir aller à la préfecture de faire sa demande d'asile. Mmh. Chaque demandeur d'asile est censé être hébergé, avoir des sous pour vivre, etc. Mais du coup, un demandeur d'asile qui arrive en France, il a au moins 2-3 mois là, avant de pouvoir être enregistré comme demandeur d'asile. Donc l'argument, c'était qu'il y avait des épidémies de gale et autres, et qu'il fallait absolument démanteler cet endroit pour des raisons sanitaires. Le deuxième aspect, et ça continue à être un problème, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui ont été hébergés dans des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, dispersés parfois assez loin de Paris, voire en province. Il y a plein de gens qui ont été envoyés vers des dispositifs d'hébergement d'urgence. Pour la plupart, c'était très temporaire, quelques jours. Il y en a pour qui ça a été renouvelé, mais il y en a beaucoup pour qui ça a été très très temporaire. Et il y a aussi des gens, par exemple, il y a un bus qui a été emmené à Stalingrad, donc c'est à peu près à même pas un kilomètre, qui a été emmené donc au centre d'accueil de jour de l'armée du salut. Donc c'est un endroit qui accueille des personnes sans abri et toute personne qui a besoin d'une aide. C'est un endroit où les gens ils peuvent manger, etc. Donc ils ont été lâchés là-bas. Sans explication. Et donc au bout de quelques heures, donc on leur a donné à manger, etc. Puis au bout de quelques heures, le centre fermait. Donc on les a invités à partir parce que c'était pas du tout voué à être un centre d'hébergement. Et donc ils sont revenus quelques heures après, furieux, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Et au fil des évacuations, donc aujourd'hui, on est le 9 juin, c'est la 8e évacuation. Le 9 juillet, c'est la 8e évacuation, donc aujourd'hui, et le problème persiste. Ça veut dire qu'on emmène les gens en leur promettant qu'ils vont être hébergés de manière pérenne, ce qui devrait être le cas dans la loi, c'est ça qui doit se passer. Et en fait, c'est pour quelques jours, c'est des choses très aléatoires, des fois dans des conditions assez dégueulasses. Il y a beaucoup de gens qui ont été, au fil des évacuations, emmenés dans des centres d'hébergement d'urgence, et il y en a qui revenaient immédiatement parce que ils comprenaient pas ce qu'ils foutaient dans cet endroit, qu'ils étaient à 16 par chambre, que c'était dégueulasse, et qu'ils n'avaient pas du tout confiance, ils ne se sentaient pas en sécurité dans ces endroits. Par exemple, je donne un exemple de l'évacuation du 19 juin, donc l'évacuation des jardins des Halles, qui a été une des multiples étapes de l'errance de ce groupe de réfugiés. Dans l'enceinte du centre de rétention de Vincennes, donc il y a un endroit qui est coincé entre la brigade canine, l'école de police et le centre de rétention de Vincennes. Donc c'est un endroit qui est quand même derrière une enceinte où il y a des barbelés. Pour le moment, il y a juste un permis de construire dessus. Et donc c'est une aile du centre de rétention de Vincennes qui n'est pas utilisée par le centre de rétention et qui est vouée à être transformée en centre d'hébergement d'urgence. La blague. Et donc pour le moment, ils n'ont pas l'autorisation de l'utiliser comme centre d'hébergement d'urgence, mais ils ont quand même emmené à peu près 4 ans, plusieurs dizaines de réfugiés à cet endroit-là pour les héberger. Et dont la plupart, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les chiens, ils ont vu les barbelés et ils sont partis en courant, quoi. Donc c'est pas facile pour beaucoup d'entre eux qui maîtrisent pas du tout la langue française parce qu'ils viennent de pays pas du tout francophones, donc la Corne de l'Afrique, beaucoup de gens d'Érythrée, d'Éthiopie, de Somalie, du Tchad, du Soudan, de comprendre et de savoir à quelles informations ils peuvent se fier, à quelles déclarations ils peuvent se fier. Alors du coup, le 2 juin, suite à l'évacuation du campement qui était sous les rails du métro La Chapelle, il y a à peu près, au moment où l'évacuation se terminait, il y avait à peu près 50 personnes. On visualisait à peu près 50 personnes qui étaient sur le carreau. Des gens qui n'avaient pas été pris en charge par l'opération, qui ne savaient pas où aller et qui étaient sur le trottoir. Le lendemain de l'évacuation, il y a une réunion qui a été organisée dans un local organisé par la Ligue des droits de l'homme avec pas mal de partenaires, de gens qui s'occupent de la santé. C'est une réunion qui a été organisée depuis assez longtemps et donc a été maintenue malgré l'évacuation du campement et qui était destinée à parler de la prise en charge médicale et des parcours de soins pour les personnes qui étaient sur ce campement à La Chapelle. Donc il y avait différentes personnes, des gens de Médecins du Monde, du Comed, des gens des paroisses, des gens de la Ligue des droits de l'homme, voilà, différentes associations et structures. Et donc une cinquantaine de... Peut-être qu'ils étaient un peu moins à ce moment-là, mais une cinquantaine, on va dire une cinquantaine de réfugiés et les 5-6 soutiens, personnes qui s'étaient mobilisées autour d'eux depuis la veille. On est allé donc à cette réunion pour voir... qui se disaient, ce qu'on pouvait faire. Enfin, c'était vraiment un moment où il fallait rencontrer des gens qui étaient mobilisés sur la question et puis médiatiser le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient sur le carreau, qui n'avaient pas été pris en compte pour le truc et qu'en fait la situation n'était pas du tout réglée, qu'il restait encore plein de gens à la rue. Donc la situation a été assez houleuse, il y a des gens des Maïf qui sont arrivés, qui ont proposé de reloger tout le monde, puis 20 personnes, puis 15 personnes, et puis finalement les réfugiés ne voulaient pas du tout se séparer, pas du tout être éparpillés. Donc ils ont refusé la proposition d'une quinzaine de lits pour une nuit des Maïf. Et donc ça a été l'occasion d'une première, je ne vais pas dire occupation, parce que ça n'a pas été une occupation, mais ils ont trouvé refuge, on va dire, dans une... salle qui est gérée par des associations qui appartient à la mairie en face de l'église Saint-Bernard, donc la salle Saint-Bruno. Et ils ont dormi là une nuit ce soir-là, donc on est rentré, il y avait à peu près 50 personnes et une heure après il y en avait 150. Donc tous les gens qui étaient éparpillés dans les rues alentours se sont rassemblés à ce moment-là. Donc ça a été le début d'un nouveau groupe de réfugiés qui s'est constitué à ce moment-là et c'est ce groupe-là qui s'est fait évacuer de plein d'endroits après. Donc on a négocié, parce que ça a été une négociation assez dure, mais finalement on a réussi à trouver un arrangement avec les gestionnaires de cette salle associative pour qu'ils puissent rester ce soir-là. Donc ils ont pu dormir dans des conditions assez sommaires, mais dans un endroit sécurisé, en ayant à manger, avec des toilettes et tout ça, une nuit, et il a été négocié que le matin, à 7h30, il sortait. Voilà, il y a eu cet abri pour une nuit, et ils se sont retrouvés donc à 50 mètres devant l'église Saint-Bernard, dans le 18e, à Paris, sans solution, sans rien du tout, et là, vraiment, les politiques absents, les associations absentes, c'est-à-dire que Emmaüs, Français d'asile, toutes les associations qui étaient mobilisées, soi-disant, pour aider les réfugiés, etc., avant, qui avaient aidé à ce que cette formidable évacuation se passe dans des conditions de dignité exceptionnelles, plus personne. Donc là, il y avait une petite dizaine de personnes, une asso du quartier qui distribuait des repas, mais les gens se retrouvaient dehors, quoi. Ils n'avaient même plus de campement. Donc il n'y avait plus de tente, toutes les affaires ont été détruites au moment de l'évacuation. Voilà. Du coup, ils se sont retrouvés ils sont installés comme ça dans la journée dans un square juste en face de l'église. Il y a eu une tentative de rentrer dans l'église pour y trouver refuge, mais qui a pas marché. Dieu n'a pas ouvert sa porte, donc l'église Saint-Bernard a son histoire. Je suis pas sûre que ce soit le même curé qu'à l'époque de l'occupation de Saint-Bernard. Voilà, je passe les détails, mais ça a capoté. Ça aurait pu marcher, mais ça a capoté. Donc là, ils sont restés 2 jours dans ce square, ils ont dormi 2 nuits. Donc c'était pas du tout idéal, mais bon, voilà, ils étaient là. Jusqu'à ce que les CRS arrivent, encerclent le square, évacuent tout le monde de force, assez violemment, et poussent tout le groupe de réfugiés vers le métro La Chapelle. Donc ils les ont encerclés et ils les ont poussés dans le métro La Chapelle, ils les ont poussés dans le métro, sur le quai du métro, et ils les ont poussés un par un, hyper violemment, dans les rames pour qu'ils s'en aillent. Donc c'était quand même plus des dizaines et des dizaines de personnes qui poussaient, que des robocops poussaient, enfin jetaient dans les rails du métro et les maintenaient de force à l'intérieur du métro jusqu'à ce que les portes se ferment pour qu'ils s'en aillent. Donc il y a pas mal de personnes qui sont parties, qui ont pris le métro jusqu'à ce que quelqu'un tire la sonnette d'alarme et que ça s'arrête, quoi. Du coup, et puis les gens qui étaient partis dans le métro sont revenus. Enfin, ils avaient juste pris le métro, quoi. Donc, pas aller plus près loin. Ce n'était pas un train, mais voilà. Et du coup, le groupe de réfugiés qui venait de se faire virer du square et mis dans le métro se retrouvait encore à la chapelle dans la rue avec nulle part où aller. Donc les gens sont allés sur la Halle Pajol. Donc la Halle Pajol, c'est un endroit du quartier de la chapelle qui a été rénové assez récemment, qui est un endroit tout neuf, avec une belle esplanade d'allées, une belle bibliothèque, une auberge de jeunesse, un bar hyper bobo, plein à craquer toute l'année, avec une immense terrasse. Bon, gros, voilà. Donc il y a eu un nouveau campement qui s'est installé à cet endroit-là, avec des moyens matériels assez limités, mais il y a quand même pas mal de gens qui ont commencé à tourner autour des réfugiés. Il y a eu une belle mobilisation des gens du quartier, plein de gens qui s'étaient jamais mobilisés auparavant sur aucune lutte, d'autres voilà, plus politisés, mais quand même beaucoup de gens du quartier. Ça a été un moment où il y a eu un gros clash entre les assos, les quelques assos qui étaient, par exemple l'asso qui donnait de la bouffe, ils ont arrêté de venir à cause de nous. Ils ont dit, les militants qui sont là, on veut plus donner de bouffe s'il y a des banderoles et des militants, quoi. Ils sont plus venus. Et il y a eu vachement de campagnes, bon, c'est systématique, hein, c'est classique, hein, les oppositions entre les humanitaires et les activistes. Et tous les gens qui sont affiliés à des partis ou qui sont dans des grosses assos, et les activistes, les méchants, les toutous, les anarchistes, c'est la bête noire de la lutte, là. Il y a eu plein d'articles, plein de gens qui ont publié des trucs sur les blogs en disant que nous, sans citer les gens personnellement, mais que les totos qui étaient là, ils manipulaient les migrants, qu'ils les ont poussés à faire une grève de la faim. C'est genre la seule décision qu'ils ont prise tout seuls. Évidemment, ils l'ont pas fait puisqu'ils se sont fait tous arrêter. Mais ce jour-là, ils venaient de décider de faire une grève de la faim. Et ça, par exemple, ça nous a été à nous reprocher, quoi. C'est compliqué d'organiser les choses, même si les choses s'organisent. Depuis, il y a eu un moment donné, les gens ils sont greffés dessus petit à petit. Comme tout est resté dans le quartier tout le temps, ça a permis que les gens du quartier qui sont investis tiennent sur la longueur. Évidemment, on perd plein de gens en cours de route quand c'est plus dans ta rue à côté, mais il y a ça. Et il y a eu un moment donné où quand le campement il a pu se poser plusieurs jours d'affilée, dans un endroit où il y avait un peu d'espace, les jardins des Halles, où là il y avait 200 personnes qui dormaient, et tout d'un coup il y a eu une organisation formelle qui s'est mise en place. Des commissions bouffe, des commissions argent, des commissions sécurité, des commissions santé, des commissions communication, des commissions juridiques, tout ça. Et depuis, les gens ils se sont investis dans ces commissions de manière beaucoup plus, je sais pas comment dire, je peux pas dire professionnelle, mais... Ça a permis à des gens, ouais, ça a permis à plein de gens, je pense, qui savaient pas trop comment faire, de, voilà. Après, ça permet à plein de gens d'avoir du pouvoir aussi. Il y a plein de voisins, il y a plein de gens qui sont des intellectuels, et des gens qui sont sensibles à la question, tu vois. Il y a plein de gens, je sais pas trop comment ils sont arrivés là. Tu vois, je vois qu'il y a plein de gens qui sont de l'UNEF, il y a plein de gens qui sont proches du PC, proches du PS, proches d'assaut, mais ils n'assument pas leurs amitiés. Ils n'assument ni leurs convictions ni leurs amitiés. Mais tout ça pour dire que c'est assez cacophonique, parce que c'est difficile. C'est des gens qui viennent pas des mêmes mondes, qui n'ont pas les mêmes habitudes de lutte, les mêmes pratiques, les mêmes convictions politiques. Et du coup, c'est difficile de s'organiser autour de choses communes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de temps perdu aussi à organiser l'organisation. Je veux pas donner une image trop négative du truc, mais forcément, ce genre de campement, ça attire aussi beaucoup de gens fous. Ils trouvent un endroit où... Alors, c'est pas méprisant quand je dis fou, c'est des gens qui trouvent un endroit où déverser des choses. Ils peuvent pas déverser n'importe où dans leur vie quotidienne. Du coup, c'est assez cacophonique. Après, ça avance quand même, et il y a quand même de la force avec ce comité de soutien autour des réfugiés qui eux-mêmes ont du mal, je pense, à s'organiser entre eux parce que c'est pas un groupe figé. Le groupe des 480 qui était sous le métro de la Chapelle, il est complètement explosé en mille morceaux. Il y a des gens qui ont été relogés de manière pérenne, d'autres pas du tout. Il y en a qui ont trouvé d'autres solutions. Il y en a beaucoup qui font des alertes, qui ont lâché l'affaire avec la France, qui sont partis dans d'autres pays d'Europe. Beaucoup à Calais, il y en a qui sont partis en Allemagne, en Suède. Enfin, ils ont compris qu'ici, c'était pas... Ils sont partis tenter leur chance ailleurs. D'ailleurs, il y en a très peu qui viennent de ces régions qui ont comme destination finale la France. Et il y a sans cesse des nouvelles arrivées. Tout le temps. Donc c'est pas, je pense, pas très facile pour eux de s'organiser. C'est sûrement pas très facile pour eux non plus de savoir qui sont les gens. Il y a beaucoup de confusion entre qui sont les gens qui viennent des assos, qui sont les gens qui sont des militants politiques, qui sont les gens qui viennent de partis politiques, quels sont les intérêts des uns des autres. Et je pense que c'est assez difficile pour eux jusqu'à il y a... J'espère que ça fonctionne, je crois que ça fonctionne assez bien. Il y a des permanences juridiques qui ont été mises en place par plusieurs associations qui sont mises ensemble, dont la CIMAL, le GISTI et d'autres assos. Donc il y a deux permanences juridiques par semaine, qui au départ étaient dans les locaux de l'Association des travailleurs maghrébins de France, juste à côté de l'église Saint-Bernard, et qui, je crois, jusqu'à l'évacuation de ce matin, se tenaient dans la bibliothèque de la Alpajol. Alors l'évacuation de ce matin, c'était exactement la même chose que le 19 juin au Jardin des Halles. Donc au Jardin des Halles, il y a eu un campement pendant presque une semaine. Il y avait 200 personnes. Donc là, au Jardin des Halles, il restait à peu près une centaine de personnes qui dormaient là. Plus, on pense au moins une centaine de personnes qui dormaient dans des rues autour et dans des squares au métro La Chapelle. Enfin, il y a plein de gens qui avaient peur aussi, enfin qui se rendaient bien compte que le fait qu'il y ait un rassemblement, ça attirait les flics et que c'était dangereux. Et donc ce matin, ils ont refait la même chose qu'il y a 3 semaines, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sans prévenir avec l'OFPRA, la préfecture, la mairie et des bus en disant « Voilà, il y a des hébergements, c'est maintenant ou c'est jamais. » Avec les flics qui attendent pour évacuer ceux qui partent pas et la mairie de Paris qui attend pour nettoyer. Donc en fait, ils arrivent et disent que la solution c'est maintenant. Et ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps d'appeler les gens qui sont pas là à ce moment-là, pour X raisons. Et les gens, il y a beaucoup de gens donc qui sont encore partis ce matin dans des bus, faire des soins d'hébergement divers et variés. Il y a des gens qui visiblement ont été pris en charge pour des durées, je vais pas dire longues, mais un peu quelques semaines. Donc on leur dit qu'ils vont être hébergés jusqu'à la réponse à leur demande d'asile. Alors je sais pas ce que ça veut dire en termes de temps, parce qu'en général une demande d'asile c'est traité sur un beaucoup plus long terme qu'un mois ou deux. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils vont accélérer les procédures? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le sérieux du traitement de leur demande? Je ne sais pas. Et il paraît qu'il y a aussi un bus de personnes qui a été emmené dans un endroit où on leur a dit que c'était un hébergement de nuit et pour une nuit. Donc ils ont refusé d'y aller, ils sont visiblement revenus sur le terrain qui venait d'être évacué, et ils ont été emmenés dans un autre bus à Créteil, dans un autre endroit, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Donc c'est en fait à chaque fois des opérations de com pour éclater les campements, parce qu'effectivement, quand il y a un campement quelque part, le nombre de personnes grossit. Il y avait une manifestation qui était prévue cet après-midi. Enfin, ça arrive toujours à point nommé. Alors du coup, la manifestation, moi j'y étais pas, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il y avait très peu de réfugiés. Donc je veux juste préciser que suite à cette évacuation de ce matin, il y a encore au moins une trentaine, une quarantaine, c'est pour le moment le compte qu'on a, mais j'imagine que c'est encore beaucoup plus, de personnes qui n'ont pas été prises en charge pour des raisons diverses, des personnes qui n'ont pas voulu rentrer dans les bus parce que pas rassurées de ce qui allait se passer, pas confiantes sur le sérieux de l'hébergement et du suivi administratif qu'il y aurait par la suite. Du coup, encore plusieurs dizaines de personnes qui dorment dans la rue encore ce soir et qui sont revenues sur la Halle Pajol. Donc il y a eu l'évacuation avec les flics, la mairie qui est passée faire le ménage, mais les affaires sont toujours là et il y a encore un campement en fait. Du coup, la manif, il y avait apparemment 400 personnes, essentiellement des soutiens, donc il y avait 30 ou 40 migrants, les personnes qui étaient sur le carreau qui ont participé à cette manif, qui ont donc fait une partie en sauvage, puis le parcours qui avait été déposé initialement pour la manif qui devait réunir tout le monde aujourd'hui. Et donc ils ont fait un tour du quartier et un tour de Paris, et il y avait 400 personnes en soutien, ce qui est beaucoup par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a quand même des centaines de personnes qui sont mobilisées à divers moments. Et là, s'il y a encore 400 personnes qui, malgré les évacuations, sont prêtes à les manifester, ça veut dire que ça prend et que... Je pense que c'est une lutte qui est partie pour durer assez longtemps. Il y a quand même la revendication principale, c'est l'hébergement de tous et toutes et un suivi social approprié, voilà, inscrit dans la loi. Et surtout l'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants qui pourrait permettre aux personnes en attente de pouvoir avoir les conditions nécessaires pour déposer leur demande d'asile, et les personnes en transit, ça concerne beaucoup de personnes, d'avoir un lieu où ils pourraient être accueillis, se reposer, prendre des décisions, la tête reposée et pas être à la rue, quoi. Donc c'est la revendication. Donc il y a la mairie de Paris qui avait fait des grandes annonces le 9 juin en disant qu'ils souhaitaient ouvrir ce type de centre. Mais bon, c'était il y a un mois, il s'est toujours rien passé, et je pense qu'elle s'est fait... Hidalgo s'est fait taper sur les doigts depuis, parce que je pense que l'Elysée n'est pas trop dans cette optique, et qu'ils ont peur de recréer un sangate au milieu de Paris, et voilà, toujours les mêmes histoires. Bah moi, mon investissement là-dedans, on peut pas être présent à chaque sur chaque aspect. Mais moi, ce que j'essaye de faire, ce que j'ai essayé de faire au départ, c'était d'organiser le soutien. On a essayé de faire ça, mais c'est difficile pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens, le fait qu'il n'y ait pas de lieu pour se rassembler, le fait qu'il y ait des évacuations permanentes, le fait qu'il y ait plein de problèmes de survie quotidienne. Les gens, ils ont pas de quoi dormir, ils ont pas de bouffe, ils ont pas d'argent, c'est quand même très compliqué. Et après, cette multiplicité d'acteurs dans les soutiens, qu'ils soient des acteurs associatifs, des militants associatifs, des militants politiques, quand je dis ça, c'est plutôt des gens associés à des partis politiques qui le disent, qui ne l'avouent pas forcément, enfin qui ne l'assument pas forcément publiquement. Et du coup, je pense que l'intérêt des soutiens pour ce genre de lutte, c'est la lutte des réfugiés, c'est à eux de décider comment ils ont envie de faire les choses et des actions qu'ils ont envie de mener. Nous, ce qu'on peut leur apporter, je pense, c'est de l'information sur leurs droits à plein de niveaux, c'est-à-dire comment ils peuvent accéder à leur demande d'asile, leur montrer un petit peu quel est le climat politique, pourquoi les choses se passent comme ça et pas d'une autre manière, les aider dans la survie quotidienne, leur raconter pour ceux qui ont participé des luttes passées, que ce soit Saint-Bernard et tout ce qui a pu se passer ces 20 dernières années, leur dresser un peu un portrait du paysage, quoi, qu'ils comprennent un peu ce qui se fait, quels sont les modes d'action des collectifs de sans-papiers par exemple, quelle est la spécificité de leur lutte, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à Paris à avoir des pleins de réfugiés comme ça à la rue, qui ont des problématiques très différentes des sans-papiers qui sont parfois installés depuis plusieurs années, qui vivent d'autres problématiques. Donc voilà, les informer un peu sur ce qu'ils peuvent faire, leur donner accès à des soutiens et à des réseaux qui peuvent leur faciliter des démarches et ouvrir les réseaux pour qu'il y ait du soutien. Ce qui est bien dans l'organisation maintenant, donc il y a des commissions qui ont été mises en place sur un certain nombre d'aspects, et il y a beaucoup de gens qui travaillent à récolter, à organiser la solidarité, même des gens qui n'ont pas de temps pour s'investir sur place, des gens qui voudraient juste filer un peu de fric, apporter à manger, apporter des vêtements, héberger des gens, prêter leur machine à laver, prêter un local. Il y a plusieurs pages Facebook. Alors, il y a même une page Facebook il y a deux campements à Paris. En fait, il y en a beaucoup plus, mais qui sont connus comme des campements de réfugiés à Paris. Donc, il y a le campement de la Chapelle. Donc, il y a une page Facebook. Je vais pas dire de bêtises. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Réfugiés de la Chapelle en lutte. Et une autre qui a été ouverte qui s'appelle Comité de soutien aux réfugiés de la Chapelle. Et il y a sur une des pages un crowdfunding où les gens qui veulent, qui sont loin et qui ont de l'argent, peuvent donner des sous. Donc ces sous sont utilisés pour acheter des tickets de métro, acheter des bâches, payer de la bouffe, payer des médicaments, des choses comme ça. Et donc sur cette page, on peut suivre avec pas mal de précision tout ce qui se passe au jour le jour. Et sur aussi Paris Lutte Info. Voilà, qui est un site internet qui relaie des infos sur les luttes qui se passent en région parisienne. Mais ce qu'on peut dire de toutes ces évacuations, c'est qu'il y a une volonté de la mairie, de la préfecture, d'invisibiliser ces groupes de réfugiés en les dispersant au maximum et de faire éclater le groupe dès qu'il commence à se structurer, à s'organiser un petit peu sérieusement. Donc on a pu voir qu'à chaque fois qu'il y avait des actions prévues, là, il y avait quelques minutes avant les élus qui débarquaient, la police, les journalistes. Et là encore aujourd'hui, donc l'évacuation de ce matin, il y avait une manifestation. On est le 9 juillet. Il y avait une manifestation prévue avec un parcours dans Paris qui arrivait jusqu'à la République, qui promettait d'être assez importante. Il y a quelques semaines, il y avait une manifestation. Bon, ça avait été appelé par des partis politiques, mais il y avait quand même eu 2000 personnes qui avaient manifesté. Donc là, vu que le mouvement s'est structuré et a quand même grossi, ça promettait d'être un peu important. Ils ont choisi ce jour pour évacuer le campement. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment que les gens se dispersent et n'existent plus en tant que groupe ayant des revendications. Ils essayent de faire en sorte que les gens, en donnant des fausses solutions, parce que les gens sont très vite de retour à la rue. Et toutes ces évacuations et ces hébergements, je mets des guillemets, ne sont que des opérations de communication pour disperser les gens. Même si on ne va pas regretter que des gens puissent être hébergés, c'est très bien pour ceux qui sont hébergés effectivement de manière pérenne, mais sinon c'est que pour faire éclater le monde. Bah, de toute façon, ils ont envie que les solutions viennent d'eux, ça c'est sûr. C'est assez évident que cette histoire d'ouverture d'un centre d'accueil pour migrants, si elle se fait pas à un moment donné par les institutions, par les pouvoirs publics, ça va se faire autrement. Et ça, ils le veulent pas. La mairie, la préfecture, l'État et tous les partis politiques qui traînent autour ont pas du tout envie que ça se fasse sans eux.